Dimanche passé, nous avons, je pense, déjà bien déblayé le terrain concernant les relations que nous pouvions avoir avec des personnes dites difficiles, en rappelant quand même que nous sommes tous la personne difficile de quelqu'un d'autre. Et que ces personnes évoluent d'ailleurs dans l'environnement familial, professionnel, ecclésial ou plus largement encore dans le vaste monde extérieur. Nous avons tenté d'apprendre aujourd'hui de notre Seigneur comment nous comporter avec ces personnes difficiles que nous pouvons croiser sur notre route, parce que si quelqu'un était passé maître dans l'art d'appréhender les rapports avec des gens compliqués, c'est bien Jésus. Il faut bien avouer qu'à ce niveau-là, il n'a pas vraiment eu beaucoup de chance. Les Romains voulaient le réduire au silence, le roi Hérode voulait le tuer, Pilate s'est lavé les mains à son sujet, les responsables religieux l'enviaient et le méprisaient à la fois, sa famille pensait qu'il était devenu fou, les habitants de sa ville natale voulaient le lapider, Judas, un de ses proches amis, l'a trahi. Les soldats l'ont battu, la foule a hurlé son désir de le voir crucifié, et ses propres disciples l'ont laissé tomber. Hein? Résumé comme ça fait peur. Il nous appelle à suivre la même route. Et pourtant, et c'est symptomatique, hein, Jésus, parce qu'il y a quand même pas mal de prières de notre Seigneur dans le Nouveau Testament, Jésus n'a jamais demandé à Dieu de faire disparaître les personnes difficiles de sa vie. Il a demandé à son Père de leur pardonner. Mais jamais de les faire disparaître. Tout simplement parce que s'il l'avait fait, il ne serait plus resté personne. Et nous ne serions pas là non plus. Sachant cela, nous devons prendre conscience que même nos moments de prière, par exemple, j'ai parlé un peu de ça dimanche passé, que c'est un endroit privilégié, ce n'est pas le seul, mais où on peut vraiment parler à Dieu de ces personnes, les amener devant Dieu. Même ces moments de prière, si on n'y prend pas garde, ça dépend de ce qu'il y a dans notre cœur, peuvent devenir un endroit où on va, d'une manière consciente ou inconsciente, exprimer notre désir devant Dieu de voir ces personnes disparaître d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on préfère ça, humainement parlant, qu'un moment devoir obéir à Dieu et faire face loyalement, j'ai envie de dire gentiment, à ces personnes. Si Dieu répondait à ce genre de prière positivement, dit OK, ben je vais me débarrasser de ton voisin, par exemple, ben vous et moi, indépendamment du reste, perdrions une occasion de grandir. Et c'est grandir, devenir un disciple qui demeure la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Les enseignements que Jésus délivre dans le Nouveau Testament sur le sujet, dont les rapports que l'on peut entretenir avec des personnes dites difficiles découlaient d'une intime et douloureuse expérience personnelle. Jésus ne parle pas de quelque chose qu'il ne connaît pas, il parle de quelque chose qu'il vit au quotidien. Et ça procède évidemment d'une profonde sagesse, puisque c'est celle de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'autre chemin, en tout cas pour nous, si l'on veut vivre des relations dignes de ce nom devant Dieu. Alors, il faut quand même rappeler, ça me paraît important, que historiquement, les enseignements de Jésus ont influencé les leaders pour la défense des droits civiques au cours de l'histoire et de nombreux mouvements comme aucune autre parole prononcée par qui que ce soit sur cette planète. On perd ça de vue, mais j'en cite quelques-uns. Les enseignements de Jésus ont inspiré, c'est eux qui l'ont dit, hein, ont inspiré des hommes tels que le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Desmond Tutu, hein, l'archevêque d'Afrique du Sud, ou Nelson Mandela, et ont contribué à changer les choses et à aller vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de fraternité. Ça me fait penser à une devise, ça, en fait. Fait le seul pays au monde qui ne pratique ni l'égalité, ni la liberté, ni la fraternité. Il fallait que je le dise. Nous allons donc tenter de comprendre deux enseignements de Jésus sur le sujet. Ces deux enseignements constituent deux réponses à deux types de situations que nous pouvons rencontrer en rapport avec cette autre dite problématique. Ces deux questions, les voici. Comment réagir? Comment je réagis? Dois-je réagir face à ceux qui vous insultent ou vous offensent? Et comment réagir face à ceux qui abusent de vous? On va prendre un premier texte où notre Seigneur va tenter de répondre à la première de ces questions. Ce texte se trouve en Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tant aussi la gauche. C'est un des textes qui est le plus difficile à avaler par la grande majorité des gens. En tout cas, par moi, j'ai eu beaucoup de mal. Seigneur, je ferai ce que tu veux, vraiment. Puis je suis arrivé là-dessus, il y a peut-être une exception là quand même. Le fameux œil pour œil est tiré d'Exode 21, donc Jésus cite l'Ancien Testament. Et ce texte nous paraît incroyablement difficile. Alors, on va essayer, chemin faisant, de réfléchir ensemble pourquoi est-ce que ça paraît si difficile. Nous avons difficile à entendre ça. D'ailleurs, Gandhi, en commentant cette parole, parce qu'il avait lu l'Évangile, en commentant cette parole, disait d'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter avec ce principe, parce qu'à la longue, on risque de ne plus croiser que des gens aveugles et édentés. Quand on y fait référence aujourd'hui dans les débats politiques ou philosophiques, à la télé et autres, c'est souvent très négativement que l'on fait référence à ce œil pour œil, dent pour dent, comme si c'était une sorte d'archaïsme. Il faut malgré tout rappeler qu'il s'agissait pour l'époque d'une avancée majeure en termes de justice et de droit. Dans un monde où la police n'existait pas, où il n'y avait aucune constitution et pas non plus de déclaration des droits de l'homme, n'importe quel homme en position de pouvoir ou d'autorité pouvait tuer quelqu'un simplement parce que celui-ci ne l'avait par exemple pas salué dans la rue. Donc la loi de Moïse limitait donc la notion de rétribution en introduisant la dimension de justice proportionnelle. Tu as tué le bœuf de ton voisin, ben, tu lui rachètes un bœuf. Avant, on aurait pu tuer quelqu'un pour avoir tué son bœuf. En fait, le problème, et ça on ne comprend pas, je pense, en fait, le problème mis en exergue par cette règle n'est pas vraiment un problème de loi. Le problème, ce n'est pas tu peux ou tu ne peux pas. Ce n'est pas ça le problème. Quand on parle de loi, c'est souvent ça. La loi dit tu peux ou tu ne peux pas. Ce n'est pas ça le problème qu'attaque Jésus ici. Le problème, c'est mon instinct. Et quand je dis mon instinct, c'est notre instinct. La loi a beau exister, elle a beau me dire que tuer ou voler c'est mal, je reste quand même capable de le faire. Je connais, bon, j'en fais pas un pataquès, hein, je connais beaucoup de chrétiens qui, depuis la nuit des temps, font travailler les gens en noir. On peut comprendre, vu ce que ça coûte en Belgique de faire travailler quelqu'un, ah ben, la TVA, hop, ça arrange le mec, ça vous arrange. Seul problème, c'est que ne pas payer la TVA, c'est du vol. C'est du vol. Donc mon instinct est tel, et ça il faut un peu être honnête envers soi-même, hein, mon instinct est tel que si quelqu'un me frappe, je vais lui rendre son coup. Si je parviens d'ailleurs à me limiter à un seul coup. C'est ce que la loi de Moïse dit. Œil pour œil, dent pour dent. Il t'en colle une, tu lui en colles une. Et vous notez au passage que dans ce cas, dans l'hypothèse où je rends plus qu'un coup, et c'est ce qui va se passer, je vais rendre plus qu'un coup. Je manifeste par la main que je ne suis même pas foutu d'obéir à la loi de Moïse. Hein. Cette loi, oui, elle est inepte. Elle... Ben non, même celle-là, tu n'es pas capable de la suivre. Et parce que je ne suis pas capable de la suivre, je manifeste de mon attitude que cette loi est nécessaire. Donc si je rends les coups, et ça il faut le comprendre, c'est parce que la douleur dont je fais l'expérience me semblera toujours plus grande que celle que j'inflige à l'autre. Ça fait partie, c'est lié profondément à notre nature déchue et à notre égocentrisme. On a fait, c'est intéressant, sous le sujet, on a fait une expérience. On a pris un groupe de personnes et on les a réunis par paire, par deux. On a alors demandé à une personne de chaque couple d'exercer une pression de pincer l'autre à la main. Je forme un couple avec José. José, où ? On forme un couple. Et voilà, José me pince. C'est l'expérience. Vous pincez. Ben, tu pinces, Yves. Il va me pincer. L'expérience a montré que, après on a demandé à l'autre personne, membre de la peine, maintenant vous pincez, celui qui vient de vous pincer, eh bien ils ont mesuré que la personne qui venait de pincer pinçait beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que préalablement, elle a reçu une douleur, on lui a infligé un trauma. Donc, tu vois, cette notion de œil pour... Elle est terrible, terriblement difficile à garder, déjà celle-là. Donc le résultat de cette expérience montre que œil pour œil, dent pour dent, c'est toujours quand on essaye de l'appliquer, c'est oui, c'est œil pour œil, dent pour dent, mais ce sera toujours un petit plus quand il s'agit de mon œil à moi. Moi j'ai souvent dit une certaine époque, tu m'en colles une, je t'en colle quatre. C'était ma statistique à moi. Mais alors je disais ça à l'époque sous le ton de la plaisanterie, de la caricature, mais ça disait quelque chose de profond de mon être. Hein. Plus maintenant, hein, respirer, ça va. Maintenant, ça va. Maintenant, je suis un ange. Hein. Vous pouvez me frapper, je ne dirai rien. Jésus, et c'est bon, j'espère que l'arrière-plan est clair. Hein. Jésus va maintenant proposer une autre option. Et également une clé. importante pour comprendre vraiment ce qu'il dit. Et cette clé, c'est la référence à Jude. J'ai abordé ça il y a très très longtemps, mais je vais peut-être vous refaire un peu, j'ai retravaillé un peu le texte, parce que ça me paraît important de le rappeler. La société au temps de Jésus, dans le premier siècle, était construite sur la notion de honte et d'honneur. L'humilité, ce n'était pas une qualité à l'époque. Hein. C'est le pouvoir, la puissance, l'orgueil. Voilà. Ceux qui réussissent. À l'époque, et même en Europe jusqu'à pas tellement longtemps, la main gauche était vue comme impure et impropre, même chez les Juifs. Dans cet instant, on parle de la droite de Dieu, on ne parle jamais de sa gauche. Hein. Vous avez remarqué ça? Encore une fois, en Europe, il y a jusqu'à pas si longtemps, je ne sais pas moi, 30, 40 ans peut-être, les gauchers, on les obligeait à écrire la main droite. Ça reposait sur le même principe. C'est que la gauche, it's no good. Pas bien. La main gauche était, par exemple, au temps de Jésus, pas utilisée pour manger ou pour frapper. On ne prenait pas dans le plat de la main gauche, on mangeait de la main droite, jamais la gauche. Ce qui signifie qu'un coup sur la joue droite ne pouvait se donner que de la main droite. Comme ça. D'accord ? Vous me suivez ? Je vous rassure, je ne vais pas essayer de vous prendre la tête à l'envers avec ce genre d'explication pour vous dire que vous ne devez pas mettre en pratique ce que Jésus dit. Au contraire. Donc, ce geste était une humiliation publique. Bon, je vais le dire autrement. Moi, ce n'est pas pour dire moi, mais avant de connaître le Seigneur, j'étais parfois dans un environnement un peu, comment on va dire, un peu vif, on va dire ça comme ça. Souvent, je mettais des claques. Je ne mettais pas des coups de poing. Parce que je savais que mettre une claque, non seulement sa tête allait faire trois fois le tour de son corps, mais en plus, je savais que j'allais humilier le gars. Et dans le monde où je vivais, c'était un rapport de pouvoir. Donc, mettre une claque à un homme, c'était non seulement, il la prenait, ce n'était pas des petites claques, mais ça l'humiliait aussi. Donc, l'impact était double. Donc, c'est un peu le même contexte. C'était une façon d'humilier quelqu'un. Autrement dit, l'intention majeure n'était pas de faire mal ou de blesser, mais d'humilier publiquement la personne. Et dernière petite cerise sur le gâteau, pour bien comprendre le texte, c'est ce que Jésus nous dit. À l'époque, asséner une gifle du revers de la main était un geste que l'on posait uniquement envers quelqu'un d'inférieur socialement. Je vais le dire autrement, deux sénateurs romains ne se seraient jamais mis une gifle. Ils se seraient peut-être vus en duel, battus, enfin peu importe. Ils auraient peut-être commencé à s'insulter dans le Sénat de Rome, mais ils ne se seraient jamais frappés de cette manière-là. C'est parce que ça aurait été une honte pour eux deux. On ne frappait que les inférieurs. D'accord ? C'est le décor. Il faut avoir ça dans la tête pour comprendre ce que Jésus dit. Alors imaginez, et c'est à ça que Jésus fait référence, quelqu'un frappant un homme de cette manière, que cet homme ne s'avérait n'être ni un esclave, ni une personne de basse extraction, c'était donc une insulte. Donc la question que pose l'enseignement de Jésus ici est donc celle-ci. Comment dois-je répondre à l'insulte? Et qu'est-ce que l'insulte que l'on me fait remonter en moi? En règle générale, il y a deux réponses à l'insulte. La réplique ou l'écrasement. On en colle une ou on s'écrase. Donc, ce que Jésus dit, c'est que votre sécurité et votre honneur, rappelez cette notion d'honneur, sont entre les mains de votre Père céleste. Votre honneur réside en une seule chose, c'est que vous êtes en Christ. C'est là que se trouve votre honneur. Donc, qu'est-ce que ça veut bien vous foutre si on vous en colle une ou qu'on vous insulte? C'est une bonne question, ça. C'est facile, je suis fils de Dieu, youpi, Seigneur, tu es mon Seigneur. Oui, mais... Alors, on va être pratique. Hein. Comment vous insulte-t-on dans la vie de tous les jours? Il y a des gens qui se prennent tout de travers, hein. C'est ce que ça s'appelle les susceptibles. Vous leur dites bonjour. C'est bizarre, comment il dit bonjour? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Ouais. Non, mais ça existe. Hein. Je ne citerai pas de nom. Il n'y a personne d'ici, je pense. Hein. Donc, quelle forme prennent les gifles de nos jours? Alors, de nos jours, je pense qu'il y a très peu, que ce soit au travail, il y a très peu de gens qui vont se ramasser une claque. Hein. Quand même très rare. Donc, aujourd'hui, c'est souvent des réflexions. Pas très gentilles. Des allusions. Ça fait aussi mal qu'une gifle, hein. Parfois même beaucoup plus mal. Quelqu'un vous diminue au travail, quelqu'un vous accuse ou vous traite injustement à la maison, ou vous manque de respect. Un proche porte un jugement sur vous négatif. Quelle est votre réaction instinctive? La vengeance, l'envie de répliquer, l'écrasement, la peur, les trois, parce que les trois peuvent jouer. À titre personnel, pour vous dire que ce n'est pas de la tarte, à titre personnel, moi, Dieu, c'est un de mes problèmes. Moi, je m'écrasais jamais. C'est ma nature. Pour me faire changer ça, il ne m'a pas dit, bon, va, tu vas t'allonger sur un divan, on va faire 25 ans de psychanalyse. Hein, si vous ferez bien ça, Yves, hein, pour que tu arrêtes de réagir comme ça. Non, il m'a envoyé des gens qui me provoquaient. Tous les jours, il y en avait un ou deux. Hop. Et je ne pouvais pas dégommer. Puis au travail, bon, j'ai commencé à plus le faire. C'est plus une réponse. Au travail, Isabelle le sait, j'ai eu des emmerdements au travail. Tous les jours, une réunion à cause de moi, hein, soi-disant, parce qu'on cassait du sucre. Oui, je prenais trop de place, je montais trop en gras, etc., etc. Et tous les jours, je savais que je ne pouvais plus répliquer de la même manière, donc il fallait que ça se passe autrement. Et j'ai prié Dieu pour que, d'abord, que ça s'arrête, ça ne s'arrêtait pas, etc., etc. Après, je suis quand même devenu chef de service. Mais ça n'a pas été pour rien, parce qu'après, j'allais devoir gérer, il y a encore eu des problèmes, et voilà, soit. Donc, ma réponse instincte, posez-vous la question au moment. Vous pouvez imaginer ce genre de scène. Quelle est votre réponse? La vengeance, donc je réplique, je m'écrase ou je suis tétanisé par la peur. Je ne sais pas quoi faire. Avec l'Esprit Saint, il y a une autre possibilité. C'est ce que Jésus dit. Et c'est la plus difficile, mais c'est la plus loyale devant Dieu. On ne se cache pas. On ne réplique pas. On se contente de faire face à la personne avec honnêteté et courage. En ayant toujours à l'esprit le fondamental en ce qui concerne les enfants de Dieu. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous sommes supposés annoncer aux hommes qu'il y a une possibilité d'être réconcilié avec Dieu par le Christ. Comment voulez-vous que ce message reste licite et lisible dans nos vies si les ambassadeurs de la réconciliation par excellence s'entretuent avec des gens parce qu'on les insulte, parce qu'on n'est pas gentil? Ça ne tient pas debout. Nous sommes des réconciliateurs, c'est notre mission. Donc quand on dit, voilà, moi, je suis là pour te dire que tu peux être réconcilié avec Dieu, si la personne sait que vous venez de dégommer à votre travail quelqu'un verbalement, ça tient. Réconciliation quoi? Vous allez réconcilier les gens avec Dieu alors que vous ne savez même pas foutu de vous réconcilier avec l'autre. Ça ne fonctionne pas, hein? Comprenez? Pas bien. Hein? Alors je sais qu'on utilise... On va me dire ça. Je sais qu'on utilise souvent, et quand j'étais jeune chrétien, j'ai compris cette phrase d'abord comme ça. Parce que c'était l'évidence dans ma vie à moi, le risque dans ma vie à moi. On utilise souvent cette parole de Jésus en rapport avec des agressions physiques graves. On vous attaque dans la rue. Vous prendre votre portefeuille, quoi, peu importe. Mais ce n'est pas le contexte. Puis réfléchissez un instant. Si je me fais agresser dans la rue, la plupart du temps, je n'aurai même pas le temps de réagir. Et la majorité d'entre nous ne réagiront même pas. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de réagir. Il y a très peu de gens qui ont été formés au combat de rue ici, à ma connaissance. Si on vous braque avec une lame, ben donnez... Écoutez, vous n'allez pas vous faire planter pour sauver votre portefeuille ou votre sac à main. Donc, la réaction ne viendra pas. Donc, ce contexte-là spécifique d'agression physique, et ce n'est pas le contexte que Jésus développe ici, ça pouvait être moins à une certaine époque. Peut-être, mais la majorité des gens ne rentrent pas là-dedans. Donc, si on vous agresse, ben voilà, je t'en colle une ou tu me donnes ton sac, ben donnez le sac, hein, s'il vous plaît. Ce contexte ne fonctionne pas aussi parce que je crois qu'il y a une évidence, c'est que la plupart d'entre nous, c'est pas un reproche, c'est comme ça, ont plus dans ce genre de cas quand on est agressé, ont plus de peur en elles que d'agressivité ou de violence. Hein. Moi, si je me laissais pas faire à l'époque, c'est parce que par nature, j'ai plus de violence en moi que de peur. Mais ce n'est pas une réponse non plus. Hein. Ah, t'as vu, ça nous était trop, j'ai tous dégommé, ils n'ont plus de tête. Ah, c'est merveilleux. Hein. Hein, c'est super. T'es un chouette pasteur, t'as dégommé trois personnes, c'est super. Forcément, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense par exemple, vous savez qu'on m'a sorti ça il y a très longtemps, dans le cas d'une femme battue. Hein. Ben là, il faut qu'elle... Pardon, il faut qu'elle prenne... Attends. Hein, quoi? Ben oui, elle a qu'à attendre la joue gauche. Mais elle n'a plus de joue, elle n'a plus de tête. Une question, parce qu'une joue, deux joues, le front, les côtes, enfin, il faut arrêter, quoi. Donc, même si c'est, voilà, c'est une femme, je ne pense pas que c'est le cas ici, mais qui est maltraitée physiquement, mais tirez-vous, hein, les filles, hein, tirez-vous. Hein. Peut-être qu'un jour, vous pourrez être confronté à votre agresseur, le pardonner, tout ce que vous voulez, mais tirez-vous. Hein. Donc, ces paroles de Jésus, je ferme la parenthèse, portent du moins, à mon sens, le rapport à l'offense. se sent parfois offensé, et sur la manière dont nous gérons cette offense. Elle porte donc d'abord sur la façon dont nous gérons et contrôlons nos sentiments les plus négatifs. Rappelez-vous de l'amygdale dont j'ai parlé c'est la semaine passée, je pense. Donc, premier appel. Mais mettez-vous ça dans la tête. La vengeance est quelque chose de profondément destructeur pour celui ou celle qui l'éprouve. Alors, ce n'est pas spécialement des vengeances comme dans certains feuilletons télévisés. Enfin, séries plutôt, parce que ma fille serait là, dit feuilleton, on dit plus feuilleton, on va pas en dire série. C'est pas ça que je dis les grands détruits en truc où pendant 65 saisons, on va vous dire oui, je vais me venger de machin. C'est pas ça. Il y a une petite phrase au boulot, est-ce que je bouffe la tête de la personne tout de suite? C'est une forme de vengeance. Minimale, c'est de la vengeance. Quant à l'écrasement, il porte en lui énormément de peur et de tristesse aussi. Ça ne peut pas être la réponse sur le long terme non plus. Nelson Mandela, j'ai encore repensé à ça parce qu'ils ont repassé Invictus, le film d'Eastwood qui retrace la sortie de prison de Mandela. Nelson Mandela ne s'est pas vengé, mais il ne s'est pas écrasé non plus. Pas plus que Gandhi ou Martin Luther King. Ils ne se sont pas vengés, ils n'ont pas répliqué, ils n'ont pas sombré dans la violence, mais ils ne se sont pas écrasés non plus. Deux en sont d'ailleurs morts. Gandhi a été assassiné. Et Martin Luther King a été assassiné. Alors c'est vrai, on ne va pas se mentir, et Jésus, ailleurs, dira, voilà, vous êtes mon disciple, vous suivez le même chemin que moi, vous pouvez aller jusqu'à la mort en suivant ce chemin-là. De nombreux martyrs chrétiens prouvent que parfois, suivre le Christ, ça va, et ne pas rentrer dans cette mouvance dans laquelle rentre le monde d'habitude, ça peut mener jusque-là. On peut tuer ce genre d'homme, on peut tuer Martin Luther King, on peut tuer Gandhi, bien sûr qu'on peut, on l'a fait. Mais on ne peut pas tenir le regard de ces hommes-là. On peut les tuer, de loin dans une lunette, c'est plus facile, pour Martin Luther King en tout cas. Mais on ne peut pas tenir devant ces hommes-là. On ne pouvait pas tenir beaucoup devant Jésus, vous savez. Quand il vous regardait dans les yeux, à mon avis, ça devait être très difficile. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tenir devant? Parce que c'est des hommes qui changent le monde, mes amis. Ces hommes ont vraiment... Vous croyez franchement que les droits civiques des Noirs aux États-Unis auraient fait cette avancée dans les années 60 si Martin Luther King avait dit comme les Black Panthers, on casse tout, on bute les Blancs? Vous croyez que l'Afrique du Sud, il y a encore plein de problèmes. Quand il est sorti de prison, il y avait 85% de Blacks, de Noirs en Afrique du Sud. Quand on s'appelle Afrique du Sud, on peut comprendre qu'il y a plus de Noirs que de Blancs. 15% de Blancs. Mandela est nommé président. Ils avaient déjà sorti les machettes et on va buter tous les Blancs. On va leur faire payer, voyez, ce qu'ils nous ont fait subir. Et Mandela dit, premier discours public, vous prenez toutes vos machettes et vous me jetez tout ça dans le fleuve. Ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est le pardon et la réconciliation. Il sortait de 27 ans de travaux forcés. Pendant 27 ans, il pouvait, en plus des cailloux, manger du caillou. Non, putain, le jour où je sors ici, je vais recouper tout ce qu'ils ont. Fais pas ça. Où plaçons-nous notre honneur? Alors, en tant que chrétien, logiquement, c'est en Dieu, en son amour, puis c'est là qu'on se trouve, et dans la croix du Christ, qui est supposé résider cet honneur. D'autant plus que ça nous apprend quelque chose de Dieu aussi. Je sais bien qu'on sait ça, mais en fait, je vais le rappeler, c'est le fondement de tout, mais... Dieu, il est Dieu, nous sommes d'accord, Dieu est Dieu. Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu. Tout-puissant, créateur, tout ce que vous voulez. Son fils meurt quand même sur une croix. Il se laisse clouer, clouer sur une croix. À un moment d'ailleurs, Jésus dit, si ce n'était pas la volonté de mon Père qui se fait maintenant, je ferais ça et vous seriez tous morts. La capacité de réagir comme ça, il l'avait aussi. Il s'est laissé crucifier. Donc ça nous dit quelque chose de Dieu. Dieu est un Dieu humble. Alors mettre Dieu et humilité dans la même phrase, pour la plupart des gens, c'est ça ne tient pas debout. Une des façons où ils pourront comprendre ça, parce qu'on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'est pas devenu chrétien, une des façons, c'est de montrer dans nos vies à nous que c'est la vérité, que c'est la réalité. Si mon Dieu, lui, est un Dieu humble, dont la seule puissance est l'amour, si je suis son disciple, je ne peux suivre que ce même chemin. Il n'y en a pas d'autre. Ce retournement de pensée, c'est un retournement de pensée, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Donc ce retournement de pensée initié par Jésus va bousculer toutes les normes sociales. Plus rien ne sera comme avant désormais. Et quelle chance, entre autres, pour les hindous, parce que c'est inspiré par l'humilité, donc la seule arme, dont la seule arme pardon, est la non-violence, que Gandhi a obtenu l'indépendance de l'Inde, hein, par la non-violence. C'est par cette même humilité que Martin Luther King a obtenu la reconnaissance des droits civiques des Noirs américains. C'est grâce à cette même humilité que Nelson Mandela a réussi à tenir pendant 27 ans dans sa prison et à réunifier un pays qui était destiné à la guerre civile, au génocide des Blancs par les Noirs et au chaos. Il a décidé que ce serait l'humilité, l'amour, le pardon et la réconciliation. Donc, Jésus dit, où se trouve ton honneur? Pourquoi, quand on te frappe, tu veux frapper en retour? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Après l'exemple que Jésus nous a dit, on ne peut pas prendre ce chemin-là. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'on n'a pas envie parfois de le prendre, c'est un chemin. Hein. Mais on ne peut pas prendre ce chemin-là. Nous devons aussi également prendre garde quant au jugement que nous portons forcément sur l'attitude des autres. Hein. Nous sommes responsables de nous, pas de l'autre. Hein. Jusqu'à un certain point, on est quand même un peu responsables des autres. Dans les milieux chrétiens, on est souvent prompt à fustiger ceux qui ne se laissent pas faire. Et on s'en sait qu'ils se laissent faire. Mais encore faut-il savoir pourquoi ils se laissent faire. Si c'est par peur, ce n'est pas le chemin non plus. Hein. C'est parce qu'ils sont humbles et que leur nature profonde et leur personnalité profonde se situent en Christ, c'est magnifique. Si c'est de la peur ou de la lâcheté, il y a un souci aussi. Hein. D'accord ? Il y a un autre cas que Jésus nous a proposé à notre étude, ce qui se trouve aussi dans Matthieu, un peu plus loin, deux versets plus loin. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Alors c'est un texte un peu obscur, quand on n'a pas la référence aussi, là, le contexte. Mais... Alors, je pense que vous savez tous qu'au 1er siècle, à l'époque de Jésus, l'empire qui règne sur le monde, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain a... Enfin, c'est les Romains qui ont inventé la notion de droit. Enfin, un peu plus tard que Moïse, hein, mais... Il existe donc une loi romaine. Et dans la loi romaine, il existe un article, puisque c'était un empire, donc c'était un pays qui était supposé avoir des contingents romains et des garnisons militaires sur tout le territoire de leur empire. Il existait un article dans la loi romaine qui permettait à un fonctionnaire romain ou à un soldat de Rome de réquisitionner une personne pour l'aider à porter une charge ou un objet. Vous êtes juif, par exemple en Judée, vous allez à votre travail et un Romain qui passe, paquet là, mets sur ton dos, tu me suis. La loi disait jusqu'à, tu peux faire, porter ton truc jusqu'à 1 km à la personne. C'est la raison pour laquelle, on ne se rend pas compte la plupart du temps quand on lit ça dans l'Évangile, c'est ce qui explique par exemple que Simon de Cyrène, vous voyez, le juif qui revient des champs, au moment où Jésus porte sa croix et il ne parvient pas à la porter, il tombe, qu'un Romain dit à Simon, tu prends là sa croix et tu... Voilà. Et Simon le fait parce qu'il connaît la loi romaine. Et c'est ce qu'il en coûte s'il enfreint cette loi. C'est pour ça qu'il prend la croix, il ne discute pas, parce qu'il connaît cette loi. Il est en pays occupé, il sait. Donc nous sommes donc confrontés ici à une personne qui utilise quelqu'un d'autre, qui ne voit pas en l'autre un être humain, mais un outil, et qui donc va être tenté d'abuser de cet autre. Ça, c'est le contexte. Hein. Alors, qu'est-ce que vous feriez dans une telle situation? Jésus, lui, nous invite à voir notre abuseur comme un être humain, dont ce qu'il dit en substance est très simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas ton humanité, ne te considère pas comme un être humain jusqu'à une certaine point, ou qui te considère comme quelqu'un d'inférieur ou d'un pauvre type, ou peu importe, que tu dois faire la même chose avec lui. Pourquoi tu ne dois pas faire la même chose? Parce que tu es mon disciple. Et moi, je ne vois personne, quel que soit son état, même le gars qui me cloue sur ma croix, je ne le vois pas comme quelqu'un qui n'est pas un être humain. Ce soldat romain, par exemple, c'est une question de regard, je suis d'accord. Hein. Il n'est pas chez lui. Il est en Judée, en l'occurrence. Les Juifs le détestent parce qu'il est le symbole de l'occupation romaine. Ils détestent, par les collaborateurs, en 40, les officiers allemands ou nazis qui se promenaient dans les rues de Bruxelles, croyaient que les Bruxellois les aimaient. Alors, on peut dire, oui, c'est très humain les haïr. Jésus, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'encore une fois, ce soldat romain, il n'est pas chez lui. Il n'est probablement pas très vieux. Il est donc étranger à la langue de ce pays, Il est étranger à ses coutumes, il n'est pas chez lui. Il est détesté par la population, il n'est d'ailleurs probablement pas très riche. Solde d'un soldat, même à l'époque, ce n'est pas bien lourd. Tout ce qu'il perçoit de son environnement, c'est de l'hostilité. Je rappelle que des soldats romains, à l'époque de Jésus, à Jérusalem et en Judée, dans toute la Judée, étaient régulièrement assassinés par des terroristes juifs qu'on appelait, nationalistes, qu'on appelait des zélotes. Ils risquaient leur peau, hein, les Romains. Les deux gars crucifiés avec Jésus étaient probablement des zélotes. Donc, des larrons, des voleurs. Non. Il est probable que c'était des assassins. Donc, voilà ce que Jésus suggère ici. Puis, la loi dit, tu dois faire un kilomètre. Et Jésus dit, tu fais ce qu'il te demande, hein, le gars. Tu fais ton kilomètre et demi avec lui, et puis tu le regardes dans les yeux et tu lui dis, tu sembles bien fatigué, hein, mon ami. Puis-je t'aider encore en quoi que ce soit? Est-ce que tu veux que je fasse encore un petit kilomètre avec toi, que je porte ta charge encore pendant un kilomètre? Le prochain qui me dit que c'est facile de suivre Jésus, je l'allonge. C'est le deal. Hein. Si tu tires la tête, les pauvres types, et Antoine, tu vas crever. Enfin, tout ce que les Juifs pouvaient bien penser. On peut comprendre, ils étaient opprimés par les Romains. On peut comprendre. Hein. C'est très humain, oui, c'est humain, mais ça n'est pas divin. Et Dieu y rend toujours le bien pour le mal. Si j'ai cette attitude, bon, il n'y a aucun soldat romain qui va vous arrêter dans la rue pour vous faire porter quelque chose. Hein. Moi, je peux le faire. Ça peut arriver. Il y a quand même une petite chance, et d'autres textes, entre autres, Paul dira ça. Il y a une petite chance que ça fasse un peu réfléchir le soldat. Pas grande, hein, puisqu'il est soldat, il est voilà, sans doute un peu, se sent sans doute supérieur par rapport à ce pauvre juif, mais il y a une petite chance que ça fasse réfléchir le soldat. Pourquoi? Parce que personne n'agit comme ça. Personne ne fait ça. Vous feriez ça instinctivement? Non, hein. Personne ne fait ça. Qui va donner un pourboire à son contrôleur de contribution? Bon, ça, c'est peut-être du vice quand même. Donc, très souvent, lorsque j'ai des problèmes avec une personne, je préfère penser délibérément à elle comme à quelqu'un d'indésirable plutôt qu'à une véritable personne possédant son histoire. Je peux entendre dire que ça excuse tout, mais ça aide. Nous pouvons offrir notre empathie. On peut essayer de comprendre, de souffrir avec. Nous pouvons garder à l'esprit que la personne que nous n'aimons pas est aussi un être humain que Dieu aime. Nous pouvons apprendre, d'une certaine manière, à nous mettre à sa place. Nous pouvons prendre le temps d'imaginer ce qu'elle ressent, comment elle a dû être traitée pour fonctionner de cette manière-là. On peut se demander de quoi elle aurait besoin pour changer. Ben de Dieu, hein, bien sûr. Et devenir la nouvelle version d'elle-même. Et elle nous donnera aussi la capacité, la possibilité de devenir, nous, la meilleure version de nous-mêmes. En fait, nous avons besoin des personnes difficiles pour atteindre notre plein potentiel et prendre conscience que réagir instinctivement par l'agression, l'amertume, la colère ou la violence manifeste que j'ai encore rien compris à ce que Jésus attend de moi et que je fais bien peu de cas de ce que le Saint-Esprit qui vit en moi a à me dire. Nous ne pouvons tout simplement plus agir comme agissent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça n'a pas de sens. Alors, sur mon pratique, peut-être, et mon avis, c'est sûr, je m'avance, hein. Peut-être avez-vous dans votre vie, au moment où je parle, des personnes qui ne perturbent pas seulement votre existence, mais qui la malmènent, la bousculent, la détruisent peut-être, ou l'ont détruit, ou continuent de le détruire, même à distance. Parce que parfois, les personnes difficiles, la première personne difficile qu'on connaît ou qu'on rencontre, c'est notre propre famille. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai cette statistique parce qu'elle m'a fait sourire, enfin, quoique. Un enfant entre 2 et 4 ans se dispute en moyenne 6,2 fois par heure. Vous avez deux enfants, ils vont se disputer en moyenne 6,2 fois par heure, entre l'âge de 2 et 4 ans. Ce qui fait 90 disputes par jour et 3000 par an. Et vous étonnez que les parents soient fatigués. Vous. Pour terminer, on va prendre une histoire. C'est une histoire que beaucoup de chrétiens, donc, hein, beaucoup de gens qui ont lu la Bible ou qui la lisent, aime beaucoup. C'est probablement l'histoire que l'on aime le plus dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que c'est une grande histoire de famille brisée, dont le héros bien involontaire s'appelle Joseph. Appelé Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique en gros. Joseph, c'est le petit dernier de la famille, le chouchou à son papa. C'est le préféré de son père. C'est lui qui reçoit de son père une robe multicolore. Alors, ça a l'air idiot, mais à l'époque, la teinture, ça coûtait un pont, il fallait coups. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, une robe comme ça, pleine de couleurs, ça coûtait une fortune. Et les autres, tous les autres étaient des bêtes robes, complètement nulles, blancs, tachés, etc. Joseph, c'est le jeune homme qui fait des rêves de gloire et de grandeur et qui est tellement inconscient d'être favorisé par son père qu'il se vante de ses rêves en permanence auprès de ses frères. Des frères qui, à un moment, excédés, humiliés, se sentent humiliés, finissent par le vendre comme esclave et le font passer pour mort auprès de son père Jacob. Ils ramènent sa tunique multicolore déchirée, parce qu'ils l'ont déchirée, avec un peu de sang, ils l'ont jeté dessus et disent « Ton fils a été bouffé par un lion. On est vraiment désolé. » Et le père « Bouh, 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 mon fils. » Voilà. Vous pensez avoir des problèmes de famille ? C'est pas mal comme début. Hein. Alors, on connaît la suite, je vous fais la version courte. Après bien des détours, des souffrances, de l'isolement, du désespoir, de la prison, voilà. Accusé injustement de viol, enfin, etc. Donc Joseph, il en prend plein là. Il y aura enfin une grande réconciliation familiale. Ils vont se réconcilier. Petite parenthèse, c'est là que je vous dis, parfois on lit cette histoire parce qu'on la trouve fabuleuse, hein, puis ça, c'est une histoire qui finit bien. Mais elle est importante dans le livre de la Genèse, cette histoire. Elle est importante parce que jusque-là, il n'y a eu aucune guérison d'une relation familiale brisée au travers de la confession et de la repentance. Et aucune expression véritable de réconciliation. Jamais. Que ce soit pour Adam et Ève, Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Jacob et Ésaü, on ne relate rien qui ressemble à une réconciliation. Oui, Jacob et Ésaü, il a offert des présents à son grand frère, mais à mon avis, c'était surtout pour que son grand frère ne le tue pas. Ça, c'est mon avis. Pas de réconciliation. Jusque-là, jusqu'à l'histoire de Joseph, le texte biblique semble dire quand ça casse dans une relation familiale, ça sera à vie, ça sera de la haine et on s'en fout, quoi. Mais en ce qui concerne Joseph et sa famille, ça va enfin se passer. À la fin de l'histoire, les frères de Joseph sont à nouveau réunis avec leur plus jeune frère, Benjamin, le père a encore fait un petit dernier, qui est redevenu le chouchou. Apparemment, le paternel, il n'a toujours pas compris. Hein. C'est de nouveau son préféré. L'histoire se répète. Les frères sont là devant Joseph, le frère qu'ils ont vendu, mais ils ne le reconnaissent pas. Il y a des chances, ils l'ont laissé dans une citerne à poils et roué de coups, et ils le retrouvent avec les insignes du pouvoir royal. Il est premier ministre de Pharaon. Évidemment, il risque pas de... Et puis, il y a quelques années qui sont passées, ils ne le reconnaissent pas. Quoi. Mais lui, les a bien reconnus. Hein. Rien à voir avec cet homme puissant et fort, arborant les signes du pouvoir que Pharaon lui a donné. En fait, Pharaon, il ne fout rien. C'est Joseph qui opère le pouvoir exécutif. C'est lui le patron du pays des deux terres. Ses frères qui savent que le jeune Benjamin est le préféré de leur père. Ils savent de nouveau, les frères, que le petit dernier est de nouveau le préféré de papa. Alors si, chemin... Je dis ça en petite parenthèse nouveau. Si vous doutez encore après ça de la nécessité de ne pas faire de favoritisme entre les enfants, c'est que vous êtes incurable. Il ne faut pas avoir de préféré. Hein. Parce que c'est facile. Oh, il est plus difficile que l'autre. On s'en fout, il faut l'aimer pareil. Hein. Voilà. Je l'ai dit. Donc la question terrible qui se pose dans le récit, hein, c'est nouveau terrible. Donc Joseph, il a le pouvoir de détruire ses frères. Hein, et humainement, n'importe qui n'a pas l'esprit, il dit ce genre, ah, il va leur en foutre plein la tronche, ouais. Ils vont payer, objectivement, humainement, vendu comme esclave, roué de coups, envoyé en Égypte. Enfin, eh bien non. Par contre, Joseph va tout faire pour savoir une chose. Est-ce qu'ils ont changé ? Lui, maintenant, il est en Dieu. Hein. Son affect est stabilisé en Dieu, c'est clair. Est-ce que mes frères ont changé ? Donc, ça ne va pas se passer tout seul. Hein. Que vont faire les frères de Joseph cette fois-ci ? Le plus jeune, le chouchou, qui est avec, il est à nouveau entre leurs mains. Parce que Joseph, par un stratagème, a mis une coupe en or dans un de leurs sacs avant qu'ils repartent chez eux. Il les a fait arrêter par ses gardes et il a mis la coupe dans le sac du plus jeune pour pouvoir l'accuser de vol. Et il dit à ses frères, vous pouvez retourner, mais pas lui, il ira en prison parce qu'il a volé. C'est pas vrai, hein, c'est un stratagème. Donc, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ses frères ont à nouveau l'occasion de se débarrasser du chouchou, retourner chez leur père en disant, papa, oui, je sais bien, il est en prison en Égypte, mais tu te rends compte ce qu'il a fait, cet imbécile? On n'a rien su faire, quoi. Il se débarrasserait une deuxième fois du frère emmerdant et gênant. Est-ce que ses frères ont changé? La réponse à cette question, est-ce qu'ils ont changé, va être tranchée par la réaction d'un des frères, de Judas. On va prendre le texte peut-être, je crois que je l'ai mis à chouchou le texte. Ouais. Voilà ce que Judas dit quand Joseph dit « Le petit reste ici, il ira en tôle. » Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. » En d'autres termes, Judas dit, Benjamin, si je ne sais perturber mon père, laisse-moi prendre sa place, je comprends qu'un vol a été commis, je comprends que cette dette doit être payée, laisse-moi la payer, que la punition tombe sur moi. Non seulement il ne veut plus perdre son jeune frère, même si c'est le préféré de son père, mais en plus il pense à la peine qu'aurait son père si le petit venait à disparaître. Il n'en veut même plus à son père d'être un mauvais père. Il a changé, vous croyez ? Mais il y a plus. Hein. Pour la première fois dans la Bible, nous entrevoyons la possibilité d'un acte de substitution. Quelqu'un va prendre la place de quelqu'un d'autre. En vue de souffrir, il s'agit ici d'être esclave, hein, à la place de quelqu'un d'autre et de sauver ce quelqu'un d'autre. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Ce que nous voyons ici, c'est qu'une famille, une communauté humaine peut être guérie par le don volontaire d'une personne qui est prête à souffrir la punition qui revient à quelqu'un d'autre. C'est intéressant, les rabbins, c'est le texte de l'Ancien Testament, donc il faut parfois écouter ce que les rabbins en disent. Les rabbins font ce commentaire de ce récit. La vraie repentance est démontrée lorsqu'une personne est soumise à la même situation que celle l'ayant conduite à pécher, celle où elle a chuté auparavant. C'est à ce moment-là, elle ne pêche pas, elle fait autrement. C'était ça le deal, hein. Ils avaient l'occasion de refaire pareil. Hein. Donc les rabbins disent encore que Judas est l'exemple ultime de la vraie repentance. La seconde fois où il s'est retrouvé devant la même situation, il a fait ce qu'il fallait. Revenons à Joseph. C'est intéressant, c'est à ce moment précis où son frère Judas prononce ses paroles qu'il sait que le cœur de ses frères a changé. Ils ne sont plus les mêmes. Autrement, ils ont regretté ce qu'ils ont fait, ce qu'ils lui ont fait. Et c'est là que l'histoire prend fin. Et c'est là que Joseph craque, il pleure tellement fort que le texte dit que ses serviteurs égyptiens qui sont en dehors de l'enceinte où il reçoit l'entendaient pleurer. Donc ça devait pleurer solidement. C'est ça la puissance de la réconciliation. Alors la question qu'il faut se poser, parce que bon, à travers tout ce qu'on a dit, on va être pratique, hein. Je vais vous embêter un petit peu, je pense. Mais je me suis embêté aussi, hein, en préparant ça. Y a-t-il dans votre vie une relation ayant besoin de réconciliation? 1, 2, 5, 10, 20. Parfois, on n'a pas de chance, il y en a 100. Hein. Y a-t-il dans votre vie une relation ayant besoin de réconciliation? Ah, vous vous sentez peut-être tellement blessé, trahi ou humilié, la blessure est si profonde que vous vous dites qu'il ou elle ne le mérite pas. Probablement pas. Mais pas plus que les frères de Joseph, pas plus que moi, et pas plus que vous. Faites-le quand même. Pas parce que je le dis, mais c'est parce que votre Seigneur vous le dit. Faites-le, c'est le sens profond de cette histoire, parce qu'un autre jeune rêveur est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Et lui aussi, on lui a retiré sa robe, lui aussi a été trahi et abandonné par ses frères. Il est maintenant prêt à se sacrifier afin que l'amour puisse triompher à la fin. Il s'appelait Jésus. Il est le Fils de Dieu. Pour lui, tous les hommes sont des frères perdus qui ont besoin de ce même pardon, de ce pardon que lui seul, le Fils de Dieu, peut accorder, parce qu'il est mort pour que ça soit possible. Il est là, il attend que l'on vienne et que l'on comprenne qu'on a tous besoin de ce pardon, qu'on a tous besoin de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.